RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Autour des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui notre agriculteur éleveur de Beauvais, Saône-et-Loire, Didier Giraud, l'entrepreneur dans la transition écologique, Flora Guebali, et notre prof d'histoire géo, Barbara Lefebvre. Tout à l'heure, on va regarder de près ces fermetures estivales annoncées de plusieurs services d'urgence dans les campagnes. Faudra-t-il aller se soigner en ville pour être justement trouver un médecin, parce que dans plusieurs villes de campagne rurales, bien, il n'y a plus de service d'urgence l'été. Vrai problème, notamment lorsqu'on traverse des canicules. On en parlera tout à l'heure avec vous au 32-16. Vous avez sans doute des témoignages. Appelez-nous. Ça sera tout à l'heure vers 11h40. Mais pour l'heure, nous accueillons notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Face aux grandes gueules, aujourd'hui, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour madame.
Bonjour.
Ex-ministre de la Transition énergétique, députée EPR Ensemble pour la République du Pas-de-Calais. En 2022, après les terribles incendies en Gironde, Emmanuel Macron avait promis l'achat de 16 canadaires neufs avant fin 2027. Nous sommes aujourd'hui en 2026. On nous dit qu'il y aura 2 canadaires neufs pour 2028 et 2 pour 2032. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps ?
C'est surtout Canadair qui ne produit pas au rythme attendu. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû se reporter sur d'autres moyens aériens. Je pense à la multiplication par 4 du nombre de Dash. Ce sont des avions qui participent aussi de la lutte contre les incendies. Je pense au renouvellement de la flotte d'hélicoptères hein, qui largue aussi de l'eau. Et puis, évidemment, ce qu'on essaye de faire, puisque nous, on est très bien équipés en A400M, pour pouvoir les faire participer à la lutte contre les incendies. Alors, c'est pas complètement au point aujourd'hui, puisqu'il faut charger l'A400M, et donc il doit nécessairement se poser, charger, redémarrer, ce qui n'est pas la souplesse d'un Canadair. Mais c'est 4 fois la charge d'un Canadair, donc c'est intéressant. Donc, faute de production de Canadair dans le monde, on a trouvé des solutions alternatif pour pouvoir faire
Mais
face.
Jean-Luc Mélenchon accuse Gabriel Attal, lorsqu'il était Premier ministre, d'avoir annulé la commande de 2 Canadair, ce qui nous fait perdre du temps. Donc.
Alors ça, c'est faux. C'est fait partie des multiples fake news de la France insoumise. Hein. On savait que Jean-Luc Mélenchon était un menteur. C'est confirmé, puisqu'en fait, Gabriel Attal est le premier Premier ministre à avoir commandé des Canadair depuis 2007.
Oui, mais pas les 4 prévus. Il n'en a commandé que 2.
Il a commandé 2 parce qu'il ne pouvait pas livrer plus de 2 Canadair dans le calendrier qui leur était imparti.
C'était pas pour faire des économies ?
Et les économies, enfin, faut que Jean-Luc Mélenchon révise. Un Canadair, ça coûte pas 50 millions d'euros. Ça coûte 80 millions d'euros. Donc 2 Canadair, ça coûte beaucoup plus que 50 millions d'euros. Donc effectivement, il y a eu des économies sur le budget global
de la sécurité
civile, mais c'était pas du tout pour annuler des commandes de Canadair. Donc ça, c'est la fake news absolue, ce n'est pas une nouveauté. En plus, Jean-Luc Mélenchon désarme la police, et là, il a voulu désarmer les pompiers, puisqu'il a voté contre les moyens supplémentaires que nous avons mis en place pour les pompiers, pour la lutte contre les incendies. Hein, je rappelle que le budget des forces de secours civiles a augmenté de 60%.
Mais dans un pays qui a une industrie aéronautique importante, reconnue, pourquoi n'est-on pas capable de produire un Canadair français ? Et donc on est dépendant, comme vous l'avez dit, d'une entreprise qui en plus était en difficulté, qui a dû se relancer.
Qui a arrêté sa chaîne de production, voilà. Qui l'a relancée.
Pourquoi on n'arrive pas à produire français sur le Canadair ?
Alors, c'est ce que je vous réponds, c'est-à-dire qu'en fait, on trouve des alternatives sur la base des avions qu'on connaît.
Mais ce ne sont pas des
Canadair. Ils ne sont pas... En fait. Qui ne sont pas des Canadair, des Airbus.
On
des...
de l'eau avec des Airbus.
Exactement.
Mais on n'a pas trouvé le moyen pour les remplir en vol.
Exactement. C'est-à-dire que développer un nouvel avion, moi j'ai été dans l'industrie automobile, je connais un petit peu l'industrie aéronautique aussi comme ministre de l'Industrie pendant 4 ans, c'est des cycles longs. Vous développez pas un avion en 2 ans, vous avez besoin de 4-5 ans avec toute la partie certification, sécurité d'un avion. En revanche, sur la base, et nous sommes un des premiers constructeurs mondiaux d'avions, eh ben, on a essayé de diversifier notre risque. Ouais, mais... C'est des hélicoptères, c'est la 400M, et effectivement, c'est ce projet européen d'avoir un avion européen qui nous permette de ne pas avoir besoin des Canadair.
Parce que du coup, on est encore tous les Européens sont dépendants du Canadair. Enfin, l'Europe, on va dire, méridionale.
Alors que tous les Européens sont confrontés à ces
incendies. Alors que les Européens maîtrisent l'Airbus depuis 50 ans, depuis A à Z. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre en termes de stratégie qu'on sait qu'il y en aura de plus en plus des feux de forêt. Pourquoi on n'est pas sur les plans d'un Airbus qui ressemble à un Canadair.
On est sur ça. C'est-à-dire que ça a démarré, mais effectivement, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts.
On sera un jour capable de produire cet Airbus ?
Moi, j'en forme le vœu, mais je ne peux pas vous répondre là. Mais c'est clair que cet élément-là, et puis vous parlez de l'Europe du Sud, mais maintenant, c'est l'Europe du Nord.
C'est bien ça le changement,
c'est toute l'Europe qui doit être équipée.
Du coup, moi, j'attirerai votre attention, puis j'aimerais avoir vos réponses, parce qu'un Canadair, pour éteindre le feu, il a besoin de pouvoir se poser dans des zones où il y a de l'eau.
Là, en ce moment, il écope la Seine, ceux de Fontainebleau.
Moi, je me pose la question, parce que le vrai enjeu demain, c'est l'eau, quoi. On fait quoi sur l'eau ? On fait quoi sur l'agriculture qui recule au profit de la désertification ? Et ces zones-là, on sait qu'elles sont complètement les plus à même de brûler et de brûler vite. Et sur la politique de l'eau, enfin moi, j'ai quand même en tête tout ce qui s'est passé autour de Sainte-Soline. Et de voir cet hiver la photo de la bassine de Sainte-Soline vide parce qu'il y a encore un recours administratif et que c'est inondé autour de la bassine,
recours judiciaire.
Il y avait 10 centimètres d'eau.
C'est pas un recours de l'administration,
il y avait 17 centimètres d'eau sur le blé autour de la bassine et la bassine était vide. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France pour s'adapter au réchauffement climatique et pour continuer à produire un minimum de bouffe et avoir suffisamment d'eau potable pour les gens déjà?
Point essentiel, moi je vous rejoins totalement. Je rappelle qu'en 2022, Julien de Normandie, qui est un ministre de l'Agriculture qui avait vraiment pris ce sujet à bras-le-corps, avait lancé le Varenne de l'eau. C'était quoi le Varenne de l'eau ? C'était justement trois choses. Sécuriser la ressource en eau, adapter l'agriculture, parce que on va pas produire de la même manière en Occitanie en 2050 qu'aujourd'hui et qu'on produisait en 2000. Ce qui est en train de se passer dans la modification du climat en Occitanie conduit à se poser des questions sur le maintien des cultures qu'on connaît depuis 50 ans, qui ont fait le succès de l'Occitanie. Et simplement, quand il n'y a pas d'eau, vous pouvez pas rien faire pousser. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc c'est pas juste du stockage, bien sûr il faut du stockage, mais il faut aussi beaucoup d'autres mesures, des espèces plus résilientes, une évolution de l'agriculture, un accompagnement des agriculteurs parce que ça coûte de l'argent et qu'on fait pas ça avec une baguette magique.
Parce que simplement un mot, parce que on dit toujours oui, il faut alors les Canadair, il faut aller les produire, mais on n'a pas d'argent, il faut aider les agriculteurs,
on n'a
pas d'argent.
La PAC, on a de l'argent, la PAC c'est 9 milliards d'euros pour la France, c'est pas l'épaisseur du trait, bien l'Orient.
Vous avez vu le décrochage alarmant des finances publiques, on en parlait ce matin.
La PAC c'est de l'argent européen, c'est pas de l'argent français.
Avec des économies, c'est l'argent français parce que indirectement,
oui, mais c'est quand même un peu de l'argent européen.
Il y a un décrochage quand même très alarmant des finances publiques françaises.
Pour ceux qui aiment pas l'Europe.
Là on rentre dans une campagne présidentielle où tout le monde nous fait des belles promesses, il y a plus d'argent et moi j'attends de voir quel candidat aura le courage de dire on n'a plus d'argent, donc il n'y aura pas de promesse, on ne pourra pas dépenser un euro supplémentaire.
Attendez, je pense que sur ça, le centre, le bloc central, Gabriel Attal est le premier à dire.
Mais vous avez cramé la caisse.
Attendez.
C'est vous qui l'avez cramé la caisse.
Moi,
le
poids bien.
Qu'il en coûte, c'est pas l'UMP, c'est pas le PS,
Il y a deux minutes, on nous reprochait de pas avoir commandé assez de Canadair et d'avoir fait une économie. Deux minutes après, on nous dit c'est scandaleux, vous avez dépensé de l'argent. Moi, je l'ai entendu, ce message-là, mais alors pendant 7 ans. C'est-à-dire que quand il fallait faire des politiques publiques, on nous a expliqué que on faisait pas assez et quand on faisait.
L'opposition est très ambiguë.
Moi, j'ai pas entendu une mesure d'économie qui tenait la route de la part des oppositions.
Moi,
pas une.
Oui, d'accord. Mais le bloc central sera quand même mal placé pour dire, écoutez, on a trop dépensé, désormais, on va mieux gérer. Ou alors, peut-être, vous avez tiré les conséquences de tout ça. Mais
alors, madame, dans la société civile, il y en a plein des idées et des bonnes idées. C'est juste que la classe politique veut pas nous écouter, veut pas travailler, veut pas proposer des choses.
Des idées pour faire des économies.
Oui, par exemple, remettre à plat, simplifier les aides sociales en créant un revenu universel, sachant que plus personne n'aura de boulot dans quelques années et que les aides sociales, c'est un espèce de grand fourre-tout auquel plus personne ne comprend rien. Si, par exemple, ça, c'est une bonne idée. Et en fait, elle a été chiffrée, étudiée par plusieurs think tanks depuis une décennie et il y a aucun politique qui veut nous écouter. Donc en fait, peut-être que le problème de toute la classe politique, c'est que vous voulez pas écouter les bonnes idées des citoyens, notamment sur le climat et sur sur l'IA. Et donc, c'est parfait parce que j'en viens à ma question. Et ainsi, j'ai repris la parole. Ma question pour vous, elle est de manière plus générale sur l'écologie. Dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, je dirais pas que rien n'a été fait. Je pense que on aurait pu, sur certains sujets, être plus ambitieux et avoir une vision plus globale, mais que au moins, vous avez quand même défendu l'écologie. En revanche, sur le deuxième mandat, Emmanuel Macron et son gouvernement ont tout détricoté. Les voitures thermiques interdites à la vente à partir de 2035, les pesticides qui ont
Pardon
été... Bah, qui devait être interdit et Stéphane
Séjourné
est revenu
interdits,
et Stéphane Séjourné est revenu dessus.
Non, ah non, c'est pas Stéphane Séjourné, là vous mentez. C'est pas Stéphane Séjourné, la position de la France était contre.
Oui, mais l'Union européenne est revenue dessus.
Donc c'est pas les gouvernements Macron.
Ah bah, Stéphane Séjourné, il a retourné jamais.
C'est Macron, pas le gouvernement Macron là.
Bah, Stéphane Séjourné, il a été nommé
par le gouvernement Macron.
Stéphane Séjourné, il a été nommé par Emmanuel Macron.
Non mais c'est quand même.
Non, alors le commissaire de
l'Union européenne. Ce n'est pas le commissaire européen qui décide ça.
Ah bah non, ça
c'est les pays européens.
La grande amie, Monsieur Macron.
C'est faux. C'est pas le commissaire européen. C'est pas plus la commissaire. Elle n'a pas la présidente de la Commission européenne ne peut pas prendre ses décisions.
Mais qui décide alors?
C'est le Conseil des ministres européens, donc c'est les 27 pays où nous représentons 15% des voix, oui, c'est-à-dire ce que pèse notre population, et c'est le Parlement européen. Ce sont les deux endroits où on décide de ça. Il faut arrêter de dire que la présidente de la Commission européenne a un pouvoir de décision.
Et donc Stéphane Séjourné, il était pour ou contre la réintroduction du thermique?
Mais ce n'est pas lui qui
il
décide.
Était pour.
Bah ce oui, n'est pas lui qui décide. Et par ailleurs.
Donc moi, je m'en tiens à la position de la France.
Mais c'est pas la position de la France. Vous mentez, la position de la France, c'était contre. Nous avons sorti une tribune spécifiquement sur ça. Je l'ai signée. Donc, je sais de quoi je parle. C'était contre. La position constante du président de la République.
Bref, c'était j'ai plein d'autres exemples, donc c'est pas très grave.
Non, mais donnez-moi les d'autres exemples. Mais s'ils sont tous du même niveau, mais en fait, on est bien partis.
Oui, mais les pesticides, vous les avez réintroduits.
Quel pesticide a été réintroduit? Flora Gebali, quel pesticide?
Toutes les lois qui sont passées, c'est la loi du plomb.
Laquelle?
La loi du plomb, par exemple.
Elle n'a pas été réintroduite. Ça n'a pas été réintroduit.
Il y a eu un grand débat.
On nous reproche suffisamment.
Ah oui.
Ça n'a pas eu
de sens. Les gens sont pas contents.
Non, je suis désolée.
Bon, bref, ma question pour vous. Non, mais on va. Bah oui.
Non, mais donnez-moi d'autres reculs.
Non, mais c'est pas vrai. En fait, sur la question.
D'autres reculs. Soyons précis.
Les ZFE,
Ma prime rénov, c'est nous qui l'avons créée.
Oui, mais rétropédalage en ce moment.
Quel rétropédalage? Il n'y a pas des milliards d'euros là en ce moment sur ma prime rénov? Vous pouvez pas rénover.
Ils ont été bloqués.
Je suis désolée, mais vous avez des centaines de milliers de Français, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, qui déposent des projets à ma prime rénov. Et je voudrais pas qu'ils pensent.
Je ne voudrais pas qu'ils pensent que c'est fini.
Parce que rien ne serait plus dramatique. Les budgets ont été réduits pour la raison qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire des économies.
Le fonds vert a quand même été réduit.
Le fonds vert a été réduit, mais qui l'a créé, le fonds vert?
Qui l'a créé? J'ai le monde sous les yeux et c'est ma source. Donc je peux vous donner toutes mes sources et je les posterai sur mes réseaux sociaux après le débat pour que tout le monde sache de quoi on parle.
Faut être précis.
Ma question, qu'est-ce que vous pensez du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron sur l'écologie?
Alors, c'est une réponse.
Moi, ma réponse, non, c'est que depuis... Que... Bah, c'est simple, hein, 2022-2024, on n'a jamais autant accéléré sur l'écologie. Vous regardez la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On fait sur tous les deux mandats, on fait quatre fois plus vite que nos prédécesseurs immédiats, c'est-à-dire le gouvernement Hollande. Ce gouvernement où les écologistes étaient aux affaires. Quatre fois plus vite. Sur l'adaptation au changement climatique, c'est nous qui sortons le plan, c'est nous qui mettons dans la réglementation une trajectoire à plus 4 degrés, ce qui nous a valu énormément de critiques. Sur les incendies, plan eau, etc., tout ça a été fait. À partir de 2024, je le dis, moi j'ai quitté le gouvernement. J'ai fait le choix de quitter le gouvernement en 2025.
Il n'y a plus de majorité.
Ça a été un enfer.
C'est plus compliqué.
Ça a été un enfer parce qu'aucun texte digne de ce nom passait. Il était soit déstructuré par l'extrême droite, soit déstructuré par l'extrême gauche.
La dissolution a été une erreur fatale.
La dissolution n'a pas aidé à porter des politiques.
La dissolution a gâché le deuxième quinquennat de Macron.
Je pense
c'est lui qui en est responsable.
Factuellement constater que depuis la dissolution, c'est très difficile. Il se passe pas rien, mais c'est très difficile de passer des textes.
Il se passe pas grand-chose.
Et c'est surtout très difficile d'être dans la continuité de politique qu'on a parlé.
Justement.
On parlait du Varenne de l'eau. Bah, ça s'est plutôt arrêté en 2024.
Alors, on va continuer d'en parler et on va évoquer aussi cette loi sur l'aide à mourir, puisque vous l'avez défendu vous-même, vous étiez plutôt engagé sur cette loi. Oui. Elle est passée à 50 voix près hier, elle continue à faire débat. On va en discuter avec les grandes gueules, Barbara Lefebvre qui posera sa question, Flora Gebali, Didier Giraud. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
11h21, les grandes gueules sont là en direct sur RMC, RMC Story, avec autour de la table Flora Guebali, Barbara Lefebvre et Didier Giraud. Et face au GG, c'est Agnès Pannier-Runacher, l'ex-ministre de la Transition énergétique, députée du Pas-de-Calais. Vous soutenez Gabriel Attal pour cette présidentielle ?
Tout à fait.
Vous êtes derrière lui. Question de Barbara Lefebvre.
Oui, question justement, on va revenir sur la présidentielle, c'est intéressant. Vous avez dit tout à l'heure, dans votre échange avec Flora, et depuis 2004, tout est détricoté, tout parce que
j'ai pas dit ça.
Vous avez dit que tout était
très difficile.
C'est très difficile. Non mais vous avez dit ensuite difficile. Que tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Pourtant vous êtes au pouvoir, alors vous n'avez pas la majorité, mais vous n'arrivez à rien faire à cause du RN et de la LFI qui vous mettre des bâtons dans les roues. Bah oui, ils ont été élus.
Ah mais je dis pas le contraire, j'essaie juste d'expliquer pourquoi les
et 7 millions de voix
que nous
pour le NFP
ne peuvent pas être appliquées puisque nous avons des opposants qui ont été tout à fait légitimement élus.
Dans une démocratie, il y a des opposants.
Je dis pas le contraire.
Alors, d'ailleurs, question, Baba.
Et d'ailleurs, votre candidat, monsieur Attal, a fait un choix en juillet 2024. Je sais qu'il n'aime pas qu'on lui rappelle ce choix, mais il avait tellement peur d'une majorité du Rassemblement national qu'il a appelé à voter pour
contre le Rassemblement national.
Pour la LFI, il avait dit je préfère encore un 70e député LFI que un 290e député RN.
Donc, et oui, parce que ça change beaucoup les choses. Vous me l'accorderez.
Votre candidat, monsieur Attal, qui n'est pas au mieux dans les sondages pour l'instant. Enfin, il est peut-être pas encore candidat, on verra. Si jamais,
je crois qu'il est candidat.
Oui, il est candidat.
Enfin, ça c'est vrai, ça. C'est...
Non, il est candidat, mais au final, est-ce qu'il sera vraiment sur la ligne
candidat,
de départ?
Il est candidat, en tout cas.
Eh bien, écoutez, si jamais il est candidat et que le second tour, il n'arrive pas à se maintenir pour être au second tour et qu'on a un second tour Rassemblement National LFI, Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon, est-ce que monsieur Attal va recommencer à demander à ce qu'on vote pour LFI?
Mais je pense surtout que nous, notre travail, c'est d'être au second tour. Oui, en fait, la question, elle se pose pas dans ces termes.
Ah oui. Non,
mais... Et on sait tous qu'une élection qui opposerait Marine Le Pen et les filles, Jean-Luc Mélenchon, serait catastrophique. Parce que ce sont pas des projets qui sont au service des Français. Mmh. On aurait un menteur contre une voleuse.
Oui.
C'est quand même compliqué.
Et donc votre candidat, il appellera à voter pour le menteur ou la voleuse?
Mais mon candidat, ce qu'il doit faire, c'est d'être au second tour.
Oui, et s'il
n'y
est pas.
Donc nous, on travaille pour ça. Mais
pour
moi,
l'instant,
je suis
les sondages ne le donnent pas en position d'être au second tour, hein, madame.
Ah ben, pour le moment, si. Pour le moment, il est devant Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe est également devant Jean-Luc Mélenchon. Donc
Non, j'ai pas vu. Le dernier sondage, c'est Édouard Philippe, Jean-luc Mélenchon, coude à coude, à 15%. Et monsieur Attal est derrière.
Tout à fait ça.
Mais de toute façon,
oui, vous regardez le sondage qui vous intéresse.
Mais madame Pannier-Runacher.
Non, mais moi, mon sujet. Il dira rien. Il dira abstention.
Mais madame, en fait, la question ne se pose pas dans ces termes-là. Moi, je ne vis pas dans la politique fiction. Peut-être que vous, ça vous plaît, la perspective d'avoir Jean-Luc Mélenchon.
Non, moi, rien ne me plaît. Marine Le Pen. Ce qui me plaît, c'est que le macronisme s'arrête, ça, c'est sûr.
Moi, j'estime, et avec ce genre de propos, finalement, est-ce que vous votez LFI ou est-ce que vous votez RN?
Moi, madame, je suis constante. Depuis 2017, je ne suis pas.
Parce que là, vous faites le jeu des extrêmes. Ce genre de propos fait le jeu des extrêmes.
On a le droit d'être contre le camp central, peut-être, non?
Vous avez tous les droits. Vous êtes. Vous êtes libre de votre choix, mais j'essaye juste d'expliquer que lorsque on affirme avec beaucoup de véhémence que le bloc central c'est pire que tout, ça veut donc dire que vous faites le jeu des extrêmes.
Écoutez, je vois 3000 milliards de dettes, je vois une insécurité qui n'a jamais été aussi importante, je vois des pédocriminels sortis de prison ou même jamais mis en prison, je vois une immigration incontrôlée, je vois un recul de la laïcité. Donc excusez-moi, je ne trouve pas. Alors je sais que vous êtes fier de votre bilan et heureusement.
Je suis pas fier de mon bilan.
Ben non,
moi j'essaye de le regarder
mais
lucidement.
Les Français ne sont pas fiers de votre bilan.
Ce discours qui est très délétère, que vous portez et qui pourrait d'ailleurs être largement nuancé parce que vous alimentez les peurs des Français.
Bien sûr.
Vous alimentez ce sentiment de recul de la France alors que sur plein de sujets, nous sommes en progrès, notamment sur l'écologie justement, notamment sur l'accompagnement des plus fragiles. Je veux dire, il faut aussi savoir le nombre de crises qu'on a traversées. Lorsqu'on a fait le quoi qu'il en coûte, personne n'était contre.
Ah si, moi j'étais contre.
Oui, mais c'est
COVID,
vrai que,
les opposants à l'époque, des gens à rien faire sur leur canapé pendant des années. Non, excusez-moi, non.
Et alors pas pendant des années,
si, ça a duré des années.
Le sens c'était de la nuance ne vous caractérise pas.
Ça a duré des années au final.
C'était peut-être le confinement qui
les a remboursés. Et peut-être on peut se dire que ça a sauvé notre économie en réalité parce qu'elle se serait effondrée. Et si vous interrogez les étrangers, je peux vous dire qu'ils auraient été très demandeurs du quoi qu'il en coûte. admiratifs.
Ils étaient admiratifs du quoi qu'il en coûte. Je pense qu'ils sont moins admiratifs de notre taux d'imposition global.
Et les faillites d'entreprise, je pense que ça s'est très bien posé le sujet.
Agnès Pannier-Runacher, pour revenir sur la présidentielle, et vous dites vous-même, il y a une menace de se retrouver, selon vous, dans un second tour entre Le Pen et Mélenchon. Alors justement, pour aller au bout de cette logique, pourquoi organiser cette primaire, alors qui s'appelle pas primaire, mais qui est une primaire entre Gabriel Attal et Édouard Philippe? Pourquoi deux candidats du Bloc central? Pourquoi pas se mettre tout de suite d'accord, être en ordre de marche et être en capacité à la fois de peut-être finir premier du premier tour et pas deuxième, comme vous montrez le sondage, et puis surtout peut-être de d'éviter la dynamique Mélenchon qui, semble-t-il, est en train de se mettre en place? En fait, pour l'instant, vous n'avez pas mis en place l'arme nécessaire pour éviter ce deuxième tour.
Alors ça, je le partage pas. D'abord parce que, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon n'est pas du tout aujourd'hui comme au deuxième tour, pas du tout. Et deuxièmement, il progresse malheureusement faute de candidats, je dirais, sur dans le camp du nouveau Front populaire, oui, semble-t-il. Hein,
oui,
bon.
Oui, mais il progresse.
Et deuxièmement, une campagne, ça se joue sur 10 mois, hein, ça se joue pas sur 2 mois. On sait tous que les cartes ont été largement rebattues dans les élections précédentes. Je parle pas de celle de 2022 qui était un peu particulière, mais je parle de celle de 2017, de 2012 et de 2007.
Ça se joue à la fin.
Les candidats qui étaient en tête des sondages sont arrivés très loin derrière. Donc ça, c'est une réalité. Donc laissons chacun faire campagne sur son projet. Je pense que c'est ce qu'attendent les Français.
Mais c'est quoi la différence entre Gabriel Attal et Édouard Philippe concrètement sur le fond, en fait, au-delà des différences de personnalité?
Différence de personnalité, oui, différence de positionnement politique aussi. Hein. Nous,
il
on est
plus à gauche, Attal.
Oui, je crois qu'on peut dire qu'il est dans le dépassement.
Donc c'est le centre gauche et Édouard Philippe c'est le centre droit.
Est-ce que, en tout cas, il est dans le dépassement. Il est dans le dépassement. Il est pour une vision aussi peut-être plus moderne qu'Édouard Philippe. C'est le premier à avoir posé les enjeux de l'intelligence artificielle comme étant une priorité absolue pour les années qui viennent. C'est celui aussi qui fait de l'école une priorité absolue. Il a été ministre de l'Éducation nationale. Ça a plutôt marqué les esprits, me semble-t-il, et le travail qu'il a fait a été très largement reconnu. Ça n'a pas duré plus de 9 mois, mais c'est une réalité. Et moi, je crois profondément aujourd'hui que l'école est un élément clé du projet que nous devons porter.
Oui, mais sur le fond, finalement, vous défendez le même bilan. Vous défendez le même bilan.
Sur le fond, c'est clair que on n'est ni extrémiste de gauche, ni extrémiste de droite. Si vous allez par là,
bien sûr.
Effectivement, on croit que l'Europe est un élément essentiel si on veut bâtir une souveraineté française, parce que on est plus fort à 450 millions de citoyens qu'à 68 millions. Ça nous distingue de manière forte de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. On croit que l'économie de marché, c'est pas une vue de l'esprit. On croit qu'il faut que le salaire paye plus, mais que ça passe par le travail.
Non, mais ça, c'est le discours de quelqu'un qui a été 10 ans dans l'opposition,
ça
madame.
Nous différencie. Enfin,
comment deux anciens premiers ministres, dans les 5 derniers premiers ministres qu'on a eus, peuvent avoir ce tel discours?
Non, mais
de dire, il faut que le travail paye plus, il faut qu'on baisse la dépense sociale, il faut qu'on redonne un peu de bouffée d'air à l'industrie, il faut qu'on réindustrialise.
Mais parce qu'on peut aussi vous parler
de ce qu'on a fait,
si vous voulez, monsieur.
Comment des gens qui ont été aux manettes il y a moins de 10 ans peuvent tenir ce discours-là?
Juste un exemple.
Question, moi.
Prenons l'industrie.
Oui.
Le seul président de la République à avoir un bilan positif en termes d'emploi net, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Donc c'est pas des chiffres qu'on trafique. Le seul président de la République depuis 1980. Depuis 1981, qui a des chiffres positifs en termes d'emploi net, c'est Emmanuel Macron. Les data centers, c'est pas de l'industrie, ce n'est pas classé dans les activités industrielles. Donc, l'emploi manufacturier, aujourd'hui, a progressé de manière nette. Ça n'était pas arrivé sous Chirac, Hollande, sous Sarkozy et sous Mitterrand.
Vous dites qu'il y a deux offres.
Donc à un moment, les faits sont têtus.
D'accord. Vous dites qu'il y a deux offres différentes entre Édouard Philippe et Gabriel Attal. Comment vous allez vous départager? Comment va le faire le choix? Parce qu'il faudra qu'un seul candidat, j'imagine.
On est d'accord. Il faut un seul candidat et c'est une dynamique de campagne. Une dynamique de campagne, ça se construit avec les Français. Ça se construit sur le terrain aussi. Ça se construit avec les Français. Et quand vous avez une dynamique de campagne, ça se voit. Donc moi, je suis confiante sur le fait qu'au mois de décembre, qu'au mois de janvier, il y a une clarification. Et je pense que Gabriel Attal a toutes les qualités pour effectivement donner cette dynamique de campagne. Mais je le dis très clairement, il faut effectivement un seul candidat sur ce bloc central, parce que sinon c'est illisible pour les Françaises et les Français. Et je trouve ça bien qu'il y ait plusieurs propositions, parce que ça donne le choix aux Français. C'est pas une espèce d'accord d'appareil, etc. Les Français, ils font aussi leur choix.
Question, Flora, tu voulais parler ?
Non, vous dites que il faut pas insulter. Je me souviens plus de votre formule exacte, mais que l'économie de marché, vous avez pas honte d'être pour l'économie de marché. Est-ce que vous pensez qu'on peut être écolo et libéral et pour le libre-échange en même temps ?
Alors, je pense que quand on est dans un pays qui régule comme on le fait l'économie, quand j'entends certains qui nous accusent d'être ultra-libéral, bon, il faut savoir raison garder. Nous sommes des libéraux tempérés. Nous sommes pour l'économie sociale de marché, ce qui est d'ailleurs au cœur du projet européen. C'est-à-dire que la liberté d'entreprendre est effectivement garantie. On est pour l'innovation, on est pour développer des projets, mais il y a des règles. Les règles sont importantes en France.
C'est l'économie sociale de marché.
On peut aller jusqu'à... Les règles en France sont importantes. On nous parle suffisamment même de complexité. Je pense qu'on a besoin aussi de simplifier, de clarifier, ce qui ne veut pas dire déréguler. Donc sur le libre-échange, pour vous répondre, oui au CETA. Je sais qu'on a un différent sur ça. Mais moi, je crois que ce traité de libre-échange qui précisément intègre des conditions écologiques, intègre des conditions sociales, est un bon traité. La preuve, il est gagnant pour la France, il est gagnant pour les filières agricoles.
Pas toutes.
Le Mercosur n'est pas un bon traité, particulièrement parce que c'est un traité qui a été négocié depuis plus de 20 ans. Hein. Il est passé dans les mains de tous les présidents de la République depuis, je crois même, en tout cas, à minima, Sarkozy. Et donc même avant, vous avez raison.
Et donc,
il a été... construit dans une manière ancienne où notamment le dérèglement climatique n'occupait pas l'espace de cette manière, et il est dangereux pour certaines filières agricoles, nous le savons, et c'est pour ça que nous sommes contre.
Merci Agnès Pannier-Runacher, oui, merci d'avoir été avec nous face aux grandes gueules, ex-ministre de la transition énergétique et députée EPR du Pas-de-Calais. Bonne fin de journée à vous. Dans un instant, on va parler de ces fermetures estivales de plusieurs services d'urgence dans les campagnes. Faut-il aller en ville pour se faire soigner cet été? À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
h 39 sur RMC, RMC Story avec Barbara Lefebvre, Flora Gebali et Didier Giraud. On est en train de débriefer l'interview de l'ex-ministre et savoir si oui ou non certaines grandes gueules étaient agressives. Je vous laisse deviner qui était concerné par cette question sur l'agressivité.
C'est sa façon
Flora,
de parler.
C'est un peu too much. Moi, j'étais douce comme un agneau.
C'est leur façon de parler.
J'étais en train de disputer
Barbara.
Et moi, contrairement à vous, je mets pas tout le macronisme à la poubelle. Je suis pas populiste. Je regarde ce qui a été fait. Il y a des choses bien qui ont été faites, notamment sous Macron 1, et il y a des choses catastrophiques qui ont été faites sous Macron 2. C'était juste le sens de ma question, mais apparemment, il n'y a pas de place pour la nuance.
Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle de ces fermetures estivales de plusieurs services d'urgence dans les campagnes. On sait que chaque été s'est tendu à l'hôpital. Là, en plus, on traverse des canicules, donc ça donne du travail supplémentaire aux soignants. Et puis, on apprend que il y a plusieurs services d'urgence dans les campagnes, dans les villes moyennes, qui sont obligés de fermer. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut habiter dans une grande ville aujourd'hui pour se faire soigner ? Nous sommes avec Laetitia Laloux, bonjour. Vous êtes secrétaire générale FO du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Nous sommes donc du côté de l'Orne. De l'Orne, qui est en Normandie, comme chacun sait. Expliquez-nous ce qui se passe.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur l'hôpital de Mamers, donc il couvre au niveau des urgences et le SMUR, le Nord-Sarthe et des communes du Sud-Orne, on nous a annoncé la fermeture de ce service à compter d'aujourd'hui. Donc, vous imaginez bien que vous parliez tout à l'heure Orne-Sarthe. En fait, nous, on est à peu près à 20-25 kilomètres de l'hôpital d'Alençon, qui est en fait fusionné avec l'hôpital de Mamers depuis plus de 20 ans. Et donc, en fait, il compte sur le territoire d'Alençon pour venir couvrir les communes dont je viens de vous parler, hein, donc du Nord-Sarthe et de...
Et dans l'autre sens, c'est quoi? C'est quoi dans l'autre sens? Le Mans?
Le Mans, ah oui, voilà, c'est ça, c'est le Mans. Le Mans qui est
donc,
déjà...
Donc, il y a plus d'urgence entre Le Mans et Alençon?
Alors, il y a des services d'urgence comme Mortagne-au-Perche, la Ferté qui est ouvert que la journée. Mais en fait, par exemple, vous voyez, on nous avait dit « Oh ben si Mortagne-au-Perche viendra », on apprend aujourd'hui que Mortagne-au-Perche est en SMUR limité, c'est-à-dire qu'il interviendra dans les 10 kilomètres autour de chez lui et qu'en plus, on détache une équipe du MHP, donc ça veut dire une équipe paramédicale.
Mais
donc,
je ne vois pas si vous pouvez venir nous aider sur le secteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel?
Ah oui.
Alors nous, le personnel paramédical avait armé son service pour tout l'été, c'est-à-dire qu'ils avaient blindé leur planning, ils avaient accepté de reprendre des heures supplémentaires avec des plannings à 60 heures semaine, à 200 heures mensuelles. On nous dit aujourd'hui que c'est un problème d'effectif médical. Nous, on sait que c'est faux. Il restait plus que 4 jours à remplir.
Quelle est la raison selon vous alors?
Eh bien, c'est qu'on veut faire disparaître les urgences de campagne. Ça fait plus de 3-4 ans qu'on essaie de fermer ces urgences de Mamers. Voilà, on fait par tous les moyens. Là, on sait qu'il y a un mois, l'ARS et puis le directeur de l'hôpital ont rencontré le maire de Mamers pour fermer au moins les urgences de nuit. Ça a été refusé. Donc nous, en fait, on a commencé à dire « Allez, on va faire un mouvement de grève pour leur montrer qu'on n'est pas d'accord ». Le lendemain, on nous dit « Ah non, c'est bon, on touche plus du tout aux urgences de Mamers ». Et 3 semaines après, on apprend quoi? Fermeture au moins.
Alors, quelles conséquences pour les patients?
Quelles conséquences pour les patients? Eh bien, déjà, ils vont se rendre devant un service des urgences qui est complètement fermé. Il n'y a même pas une équipe paramédicale pour l'accueillir. Donc, voilà. Donc, vous faites une crise cardiaque devant les urgences, on fait quoi?
Non, mais
il faut aller où alors?
Je pense que c'est plus général que votre cas personnel. C'est quand même une volonté globale de renforcer les équipes héliportées, de n'avoir plus que des CHU et de fermer les urgences en milieu rural, mais de façon globale et définitive, quoi.
Oui, mais monsieur, c'est bien beau l'héliporté, d'habiter en ville, etc., mais il faut venir dans la réalité de nos campagnes.
On j'y suis, madame, j'y suis.
Qui vivent sur de la terre battue, alors on nous parle, nous, des réseaux, des téléphones portables, de tablettes, de tout ça, c'est des personnes, ils ne savent pas se servir de tout ça. La vraie vie, c'est celle-là, c'est celle que nous, on connaît. Oui. On a nos écoles primaires, on a nos collèges, on a nos lycées.
Donc on est en train d'isoler un peu plus encore les gens qui habitent la
fracture,
campagne,
la fracture des madame, gilets jaunes. La fracture des gilets jaunes, elle se creuse.
Pour vous, madame, donc c'est une volonté de l'ARS et vous remontez plus haut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des directives du ministère de la Santé transmises aux ARS pour avoir cette politique d'accentuation de la désertification médicale, puisque par ailleurs, les ministres macroniens nous expliquent qu'au contraire, ils luttent contre la désertification médicale.
Alors moi, madame, je vais vous répondre quelque chose tout simple. Moi, la politique, FO est un syndicat apolitique. Je me fous de que ce soit Macron, que ce soit... Voilà. Moi, ce que je dis aujourd'hui au ministère de la Santé, c'est qu'ils sont en train de sacrifier des vies au profit d'autres. C'est-à-dire qu'on choisit des territoires par rapport à un autre. Moi, je m'en fous de la politique aujourd'hui. Je veux que les gens qui sont sur le terrain, ils prennent leurs responsabilités et qu'il y ait des vies de sauver. Moi, le reste, ça m'intéresse pas.
Ah oui, mais voilà, les ordres, ils viennent bien. Oui, d'accord, ça, j'entends bien.
Mais les ordres, madame,
les ordres, ils viennent d'où?
Mais moi, je ne suis pas dans les papiers.
Bah, si, les ARS,
vous me parlez
stratégie.
De l'ARS, c'est
pas l'ARS. La santé.
L'ARS, elle prend ses ordres d'où?
Excusez-moi, madame, vous me demandez qui est venu. Moi, je vous réponds que c'est l'ARS. Vous demanderez à l'ARS qui doit donner ses ordres.
Oui, et c'est l'ARS. De toute façon, l'ARS dépend du ministère de la Santé.
L'ARS dépend du ministère de la Santé.
Eh bien, on est d'accord. Eh bien, chacun est capable de faire le lien.
Alors après, on peut imaginer aussi qu'il est peut-être préférable de regrouper les services dans des CHU bien équipés, avec des moyens, avec du personnel.
Et que c'est peut-être plus facile tous les quatre départements.
C'est peut-être plus facile à gérer que.
En même temps, j'arrive pas.
Bah oui, c'est Didier Giraud qui est assez pénible pour ça. Donc je répète, est-ce qu'on peut imaginer que c'est peut-être plus efficace de regrouper des services dans des CHU bien équipés, bien dotés, avec du personnel présent, même s'il faut faire quelques kilomètres de plus pour aller se faire soigner, c'est sûr.
Bien sûr que non. Je pense que les structures, en tout cas, moi je parle pour ce que je connais, j'ai été plus de 20 ans infirmière à l'hôpital de Mamers. C'est un hôpital de proximité qui est labellisé. On prend très bien les gens en charge, pas trop loin de chez eux. Ils ont leurs repères, ils ont leur famille qui peut venir, ils ont plein de choses en fait. Parce que vous savez, prendre en charge, oui, on a l'urgence vitale, mais à côté, le prendre en charge, c'est aussi la prise en charge globale du patient, le social, le sanitaire, etc. Mmh. Donc pour moi, non, les hôpitaux de proximité ont toute leur place au sein du territoire dans la prise en charge globale du patient.
Et sur votre territoire médical, quelle est la situation au niveau des maternités ?
Alors, il nous reste celle de l'hôpital d'Alençon. Par contre, là où on est en grande détresse, c'est notamment au service de pédiatrie, puisqu'on n'a pas d'urgence pédiatrique la nuit.
Ouais, ça, c'est vrai.
Voilà. Non,
merci Laetitia Lalou d'être avec nous. On va remercier madame. Merci de nous avoir expliqué la situation d'Alençon-Mamers. Mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, à Dinan également, aussi, on va fermer les services d'urgence cet été.
C'est tous les étés qu'on fait ce sujet-là. Et je trouve que le maillage, il se détricote tout petit doucement, puisque systématiquement, on ferme d'abord les nuits, et puis ensuite, dans des plus longues périodes, les étés, je trouve qu'il y a une vraie volonté de détricoter le maillage des urgences, et il y a quelque chose d'assumé, puisque dans les CHU, on met deux hélicoptères là où il y en avait un seul il y a 10 ans. Donc à un moment donné, il y a aussi quelque chose d'assumé de dire on ferme les urgences des endroits où ça marche bien.
Et Didier moi, était le même à te plaindre des finances publiques qui sont mal gérées.
Bien, hein.
C'est aussi des questions de voilà. Moyens
mais
qu'on gère.
Non,
les finances publiques, donne-moi le crayon, puis tu vas voir. Oui. Hein. Je vais te dire où on va les enlever.
Oui,
quoi,
mais il y aura toujours une bonne raison de pas
parce que là, les applications concrètes, je vais te les donner. Quoi, hein. Il y a vers chez moi ce printemps un mec qui s'est fait encorner. Hein. Le temps que les urgences arrivent, que l'hélicoptère arrive, c'était trop tard.
Attends, encorner, ça veut dire
une corne de taureau. Voilà.
À quel niveau de son corps ?
Dans une cuisse, donc l'artère
fémorale.
Et pourquoi ça a mis trop de temps à l'intervention ?
Ah oui, parce que tant qu'arrive un hélicoptère qui vient de 150 bornes, c'est trop tard, quoi.
Et la question majeure, surtout, c'est le vieillissement de la population. Donc, avec une population qui vieillit, aussi beaucoup dans les campagnes, dans les zones, mais bon, on le sait, hein, désert médical, c'est 100% du territoire, mais dans les zones. Donc, il faut une politique, me semble-t-il, hein, je crois, hein, de projection, une stratégie. Ça passe donc par former plus de médecins. Qu'est-ce qu'on nous a dit en 2012, en 2017, en 2022 ? Oui, mais ça se forme pas en 5 minutes, un médecin, il faut 10 ans. Oui, alors depuis le temps qu'on nous dit ça, ça en fait 15. Alors, excusez-moi.
Pour le coup, ils ont enlevé le numéro.
Non, ils n'ont pas enlevé le numerus clausus. Alors, il faut que tu te renseignes sur.
Non.
Alors, excusez-moi. Je suis très renseignée sur les études de médecine, donc, et je peux vous le dire, il n'y a aucun changement sur le nombre d'étudiants qui obtiennent la première année de médecine. On est exactement toujours sur le même nombre. Ils ont juste changé le nom, mais c'est toujours pareil. On continue à limiter le nombre de jeunes Français qui ont le niveau, qui sont motivés pour devenir médecin et qu'on vient fracasser sur la première année de PACES. Il va y avoir l'année prochaine la réforme, encore une réforme des études de médecine qui va encore accentuer les problématiques de pénurie. Il y a aussi une volonté dans ce pays de limiter le nombre de jeunes médecins français parce que on préfère faire venir des médecins dépeuplés, notamment les médecins africains, pour les payer moins cher.
Il y en a plus.
Pour les payer au lance-pierre et moins cher avec des statuts inacceptables dans l'hôpital public, alors qu'on pourrait avoir des médecins formés en France.
Alors, Barbara, le nombre de médecins a augmenté l'année dernière. De 2%, c'est peut-être pas suffisant, mais
ça n'a rien à voir avec la politique des urgences, tout ça. Hein.
Non, mais si, parce que tu mets qui il faut des médecins dans les services d'urgence.
Elle te l'a dit. Elle te l'a dit, la dame qu'on a eue au téléphone de FO, c'était pas un problème d'effectif. Les gens avaient accepté de tenir les urgences, même si c'était au détriment de leurs heures de travail. Ils avaient accepté de tenir les urgences tout l'été. Et si on a fermé les urgences, c'est parce qu'on a une volonté. C'était pas un problème d'effectif.
Mais il y a un problème plus global d'effectif.
Mais bien sûr qu'il y a un problème d'effectif. Mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie de détricoter le maillage des urgences, il n'est pas forcément lié au nombre de médecins.
Je n'ai pas dit le contraire, mais ce facteur, plus un autre, plus évidemment celui du vieillissement de la population,
ça devient obligatoire.
Et d'un nombre de médecins qui ne cesse de baisser ou qui augmente d'à peine 1 ou 2%, excuse-moi, la situation va être catastrophique.
Caroline est avec nous, elle nous appelle de Lozère. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors,
c'est marrant, tiens, les urgences.
Est-ce que vous êtes aussi concernée par ces services d'urgence qui ferment l'été chez vous, de votre côté?
Oui. Et puis alors, j'ai tout englobé, mais c'est les services d'urgence.
donc de l'hôpital de Mende ou de ceux de Saint-Flour dans le Cantal, parce que je suis entre les deux. L'été, ça se travaille par demi-journée, en plein été. Pourtant, c'est une zone un peu touristique. Mais l'accès aux soins, c'est enfin le désert médical, c'est au-delà de tout ça. Moi, c'est ce que j'expliquais. Je suis polypathologique, j'ai plusieurs problèmes de santé. Je suis reconnue en ALDM, DPH, etc. À l'hôpital, je vais parler uniquement de l'hôpital de Mende. Hein, je vais même pas parler d'autre chose. À l'hôpital de Mende, les urgences sont ouvertes par intermittence. Quand vous arrivez aux urgences, et ça, je l'ai vécu en direct, hein, il fallait faire une échographie. Ils n'en avaient pas.
Et rappelons que Mende, c'est quand même la préfecture du département de la Lozère. Hein. Oui. C'est pas la petite ville du coin, quand même.
Il n'en avait pas parce qu'il était cassé ou il n'en avait pas tout court?
Alors, ils n'avaient pas ils n'avaient pas de radio parce que c'était cassé et ils n'avaient pas d'échographie parce que l'échographe n'était pas là et qu'une échographie ne peut être faite que par un médecin et que le médecin en pleine nuit n'était pas là.
D'accord. Et alors, comment ça s'est terminé tout ça?
Ah ben, je suis partie à Montpellier.
Ah oui, d'accord. Voilà. Et combien de kilomètres pour aller à Montpellier?
Ah non, on parle pas en kilomètres, c'est comme en Corse, là, en Lozère. Hein, oui. On parle en temps.
Donc, c'est combien de temps? 2h30, ah oui. Il faut pas avoir un problème.
Avec une pathologie cardiaque quand même. Hein.
Alors moi, voilà, j'ai plusieurs pathologies, et là, en l'occurrence, c'était pour un ulcère hémorragique.
Oh, ah, carrément, oui. Bon, bah voilà.
Ouais, là, on touche de près quand même la limite de tout ça. Ouais.
Quand j'ai besoin d'un cardiologue. Et là, je voudrais quand même le raconter, parce que ça, c'est quand même assez phénoménal. Chaque année, je rappelle l'hôpital de Mende, chaque année, parce qu'il n'y a qu'un seul cardiologue pour toute la Lozère. Et quand j'appelle chaque année au mois de janvier, donc là, j'ai encore appelé, et là, j'ai même une trace écrite par mail, on me dit, rappelez l'année prochaine, il n'a aucune disponibilité pour toute l'année.
Ah oui.
Alors j'appelle les départements voisins comme l'Aveyron ou le Cantal, et là les secrétaires médicales au téléphone ont pour ordre de nous expliquer qu'en fait elles n'ont pas le droit de nous donner de rendez-vous parce qu'on est hors département. Voilà où nous en
c'est
sommes.
C'est une honte, mais c'est une honte.
Merci Caroline pour ce témoignage, c'est assez accablant effectivement. Mais
il y a quand même une France de seconde zone. Là.
Oui. Mais c'est la faute à personne.
Non, ce qui n'est pas possible, c'est que ces personnes-là payent aussi des impôts. C'est-à-dire que tu payes les mêmes impôts qu'une personne qui vit dans une grande ville et t'as pas les mêmes services. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais on va accueillir Estelle Denis parce qu'il est déjà presque midi. Estelle Denis, bonjour Estelle.
Salut Olivier, salut les GG. On va parler de Zinedine Zidane, vous savez qu'il est favori pour succéder à Didier Deschamps. A priori, selon les infos RMC Sport, ce sera lui et ce sera sa nomination jeudi ou vendredi prochain.
Ah oui, donc c'est
très vite.
Après la
Ligue des Nations qui arrive en septembre, donc il y a des matchs à préparer assez vite.
Exactement. Alors, Zidane favori pour prendre la tête des Bleus. Est-ce que ça vous fait rêver? Voilà, Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, on vous posera la question. Est-ce qu'il peut changer des choses par rapport aux 14 ans de Didier Deschamps? Est-ce qu'il peut faire mieux?
Par rapport à ce qui s'est passé là, oui. Le dernier match.
Mais il après, Deschamps, c'est 14 ans. Est-ce qu'on peut faire mieux que Deschamps? Voilà, c'est quand même.
Deschamps, c'est un titre. Hein.
Oui, enfin, il y a eu quelques finales une finale de Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Une finale d'Euro, non?
On attend autre chose. Si c'est pour faire Deschamps, autant garder Deschamps. Pardon.
Oui, mais Zidane, il n'a pas entraîné.
Si c'est pour faire du Deschamps, autant le garder.
Oui,
Deschamps,
mais il n'a pas entraîné depuis 5 ans déjà. Est-ce que c'est pas trop long, etc.? On en parlera avec Daniel Riolo, tiens, qui sera là dans un instant, avec Jean-Philippe Doux et Yael Mellul. Et on se demandera également si vous seriez prêt à faire une pause avec les réseaux sociaux pendant les vacances. Est-ce que vous seriez capable de vous passer de TikTok, d'Instagram ou de Twitter pour les vacances?
Moi, je les supprime tous les étés. Je supprime.
Ah bon?
Ah bah oui. Ah bah ça va. Je suis en vacances.
Ah t'arrives à passer des réseaux sociaux pendant l'été?
Ah bah justement, c'est le bonheur absolu.
Pourtant, c'est le moment où on a le plus de temps.
Il faut lire un livre. Il faut regarder.
Je fais les deux.
La mer, la montagne, la campagne, la forêt. Il faut profiter de la nature.
Moi, je la regarde sur écran. Non, je rigole. Mais non, bien sûr.
Non, mais je suis sûre que t'es le genre de personne qui a une cheminée, mais tu sais, sur son écran l'hiver.
Non,
c'est qui allume ça pendant sa raclette?
Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, on va parler amour, couple. Oui, c'est les vacances. Justement, faire un break dans son couple pendant les vacances pour raviver la flamme.
Ça veut dire quoi, faire un break?
Tu dis, salut Olivier, on se retrouve à la rentrée.
Ah.
Et puis, le prof de sœur.
Ça peut être un break définitif.
La serveuse du bar d'à côté. Ouais. Et puis,
d'accord.
Bah, oui.
C'est qu'il y a des vues. Quand
alors, c'est après, pas un break. C'est en fait, tu choisis quelqu'un d'autre.
Ça s'appelle de l'infidélité. Quoi.
Oui, mais le couple libre. Oui, mais alors enfin, après il y a des il faut savoir ce que tu mets dans ton break.
Codifier,
est-ce que c'est un break avec adultère ou sans adultère? Ça dépend du break que tu choisis.
Ça s'appelle l'infidélité codifiée.
Il y a plusieurs formules de break.
Qui fait ça? Appelez-nous au 3216.
C'est un contrat écrit, j'imagine.
Allez.